Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Urbania et Nouveau Projet. Au programme, apprivoiser les paris sportifs au Québec. J'ai acheté une maison pendant la pandémie et voici ce que j'ai appris. Et créer la vitalité. Bonne écoute.
Apprivoiser les paris sportifs au Québec, un divertissement légal, mais qui n'est pas sans risque. Un texte de Justin Gélina, paru le 23 février 2023 dans Urbania. Samedi soir, c'est la soirée du hockey. Avec un ami, nous regardons les Canadiens de Montréal jouer contre les Maple Leafs de Toronto. Entre deux poignées de chips, il me montre sur son téléphone ses quelques mises de la soirée. L'offre de combinaison est impressionnante. Il a parié sur différents matchs de basketball et de hockey dans la même soirée. Il a même parié sur le nombre de points par joueur, de tirs au but et sur les pénalités au cours des matchs. La soirée se termine avec un résultat négatif pour ses mises. « Pas grave, ce sera pour une prochaine fois », dit-il. Il a découvert les paris sportifs récemment et n'est pas le seul. Dans un article de la presse de 2021, on peut y lire que 20% des Québécois ont joué à un jeu de hasard et d'argent en ligne au cours des 12 derniers mois. Seulement en 2020-2021, l'Auto-Québec a enregistré des ventes de 29,38 millions de dollars pour les paris sur des événements. De plus, le PDG de l'Auto-Québec, Jean-François Bergeron, explique dans un article du Soleil qu'il veut offrir plus d'initiatives destinées à plaire aux jeunes adultes de manière responsable. Les mises en ligne font assurément partie de la stratégie. Dans cette montée de popularité des paris sportifs au Québec, plusieurs questions se posent. D'où vient ce concept? Pourquoi parier? Où le faire? Et quels en sont les risques? D'où vient cette idée de parier sur les sports? Un professeur en sciences à l'Université du Québec à Montréal, Arthur Charpentier, explique dans un article que les paris sportifs existent depuis longtemps, même si l'origine du premier pari est impossible à dater. On peut penser aux Grecs, inventeurs des Jeux olympiques, où il n'était pas rare que les spectateurs parient entre eux sur les vainqueurs. Avant que l'Auto-Québec ne lance la loterie sportive mise au jeu en 1990, c'était un peu le Far West dans les paris sportifs au Québec. La Société d'État offre actuellement des paris sur une dizaine de disciplines sportives en fonction de la période de l'année. Exemple, Jeux olympiques, baseball, soccer, tennis, golf, combat, course, hockey et basketball. Pourquoi parier? Selon un rapport de 2001 de l'Institut national de santé publique du Québec sur les jeux de hasard, certains joueurs ne recherchent que la sensation qu'un gain leur procure. D'autres, encore, apprécient les défis intellectuels que leur jeu de prédilection leur propose. Pour d'autres, ce sont les aspects compétitifs des jeux qui s'avèrent la motivation principale. De plus, l'Institut gouvernemental souligne que les jeux encouragent le rêve de faire un coup d'argent, possiblement de modifier sa vie, d'accéder à un monde matériel supérieur à celui dans lequel on vit. Dans certains cas, le jeu favoriserait les rencontres sociales, l'appartenance à un groupe ou, dans certains cas, à un milieu de vie et à des valeurs partagées. Dans d'autres cas, ils peuvent aussi amener certaines personnes à s'isoler. Est-ce que c'est légal de parier au Québec? Oui, mais si vous voulez vous assurer de le faire en toute légalité, il faut que ça passe par l'Auto-Québec. Selon son porte-parole, Renaud Dugas, l'autoquébec.com est le seul site de jeu en ligne 100% légal au Québec. Les très populaires sociétés étrangères comme Bet99 sont tolérées car elles sont basées à l'étranger. L'Auto-Québec tente toutefois d'établir un meilleur contrôle des paris sportifs au Québec en limitant, par exemple, les sociétés étrangères dans leur publicité. Vous écoutez « Apprivoiser les paris sportifs au Québec », un divertissement légal, mais qui n'est pas sans risque, un texte de Justin Gélina paru le 23 février 2023 dans Urbania. Qu'est-ce que ça change si je ne choisis pas l'Auto-Québec? Une partie de la réponse est évidemment économique. Les retombées financières pour les paris sportifs sont énormes. Selon la Canadian Gaming Association, c'est 14 milliards de dollars qui seraient perdus chaque année en paris sportifs sur le marché noir ou sur les sites web étrangers au Canada. En misant sur le marché québécois, le gouvernement veut évidemment s'assurer que cet argent demeure dans la province. Une autre partie de la réponse se situe au niveau de la sécurité des joueurs et joueuses. La conseillère spécialisée en jeux de hasard et d'argent à l'Institut national de santé publique du Québec, INSPQ, Élisabeth Papineau, affirme, dans un article de la presse, qu'une association à l'Auto-Québec est préférable parce que les jeux de l'Auto-Québec sont davantage assortis de mesures de contrôle de la fréquence de jeu et offrent un plus haut degré de reddition de compte. Parier. Est-ce que c'est un sport dangereux? Selon un rapport sur les paris sportifs mené par le chercheur Serge Sévigny de l'Université Laval, plusieurs études soulignent que les paris sportifs sont associés aux jeux pathologiques. Le rapport met en lumière une étude de 2004 qui visait à évaluer les habitudes de jeu de 8842 Québécois-Québécoises âgés de 18 ans. Elle conclut que les paris sportifs présentent un fort potentiel addictif. La directrice du programme de sensibilisation aux jeux de l'Association canadienne pour la santé mentale, ACSM, Shauna Altrog, se dit pourtant préoccupée par cette normalisation des publicités télévisées sur les paris sportifs. Depuis quelque temps, la directrice s'inquiète de la récente prolifération des publicités à la télévision et certaines plateformes sur les paris sportifs, en particulier en ce qui concerne les jeunes. Alors, que faire? Le chercheur Sévigny souligne dans son rapport que les stratégies de prévention réalisées auprès de la population doivent mettre l'emphase sur le fait que les paris sportifs sont des jeux de hasard dont l'issue est incontrôlable, et ne pas laisser planer l'idée que les connaissances contribueront aux gains monétaires. Parier ou ne pas parier? Est-ce que je vais parier sur le prochain match des Canadiens? Si je le regarde entre amis, peut-être. Pour ma part, jouer aux jeux de hasard, ça se fait en gang. Je mise sur sa capacité à créer un lien social plutôt qu'à me rendre riche. Avec sa montée en popularité, plusieurs seront initiés aux paris sportifs. Malgré son côté amusant et excitant, il ne faut pas négliger ces dangers. La dépendance au jeu peut véritablement avoir des répercussions financières et humaines importantes. Parlez-en à Drake, qui aurait récemment perdu 1 million en pariant que l'Argentine allait remporter la Coupe du monde de soccer en 90 minutes. On se rappelle que l'équipe de Lionel Messi a dû se rendre en temps supplémentaire et en tir au but pour vaincre la France. Pauvre Drake. Et ça, c'était seulement un mois après avoir perdu 2 millions en misant sur un combat UFC. Au final, parier doit rester un jeu. Un peu comme sa consommation d'alcool. Il faut être conscient de ses limites et des risques qui y sont associés. Si le jeu est un problème pour vous ou pour l'un ou l'une de vos proches, n'hésitez pas à demander de l'aide sur le site internet aidejeu.ca. C'était « Apprivoiser les paris sportifs au Québec », un divertissement légal, mais qui n'est pas sans risque. Un texte de Justin Gélina, paru le 23 février 2023 dans Urbania. J'ai acheté une maison pendant la pandémie et voici ce que j'ai appris. 3 nouveaux propriétaires prennent du recul sur leurs biens immobiliers pandémiques. Un texte de Justine Leblon, paru le 22 février 2023 dans Urbania. Les 2 dernières années ont été rock'n'roll dans le marché immobilier, c'est le moins qu'on puisse dire. Et maintenant que les taux d'intérêt montent en flèche, ça nous fait réévaluer certaines décisions prises peut-être un peu trop sur un coup de tête. Alors, qu'avez-vous appris en regardant votre achat de maison pandémique avec un peu de recul? Êtes-vous toujours content, contente? Avez-vous des regrets? Témoignage. Adrien. Un chalet en forêt. La pandémie a été une vraie prise de conscience pour Adrien, 40 ans, fondateur et président d'une PME à Montréal. Lui, qui avait toujours vécu dans une colocation en ville, habite désormais dans une maison en forêt style chalet à environ 1 heure de route de Montréal. Je suis un gars qui va extrêmement vite dans la vie. J'ai toujours habité en ville. J'ai énormément voyagé. Et puis bon, j'avais des habitudes aussi un peu nuisantes pour ma santé, on va dire, avec la ville, le stress lié au travail. Donc, c'est une amie qui m'a dit « Adrien, tu sais, faut que t'arrêtes de vivre comme ça. » C'est elle qui m'a un peu éclairci sur la possibilité d'aller vivre en dehors de Montréal. Ni une ni deux, après lui avoir fait cette réflexion pendant la pandémie, son ami l'a emmené visiter des maisons. Je me rappellerai toujours de cette journée où mon ami m'a appelé et m'a dit « Viens, on va aller voir des maisons, on n'a rien à faire, les bars et les restaurants sont fermés. » C'était vraiment pas prémédité, se souvient Adrien. Au bout de 8 visites, l'entrepreneur a un coup de cœur. Cette maison n'était pas dans mon budget, mais j'ai fait le choix d'emprunter plus que prévu. Et j'ai pu négocier un peu. Le propriétaire avait plusieurs choix, mais j'étais le seul qui n'avait pas pour projet de casser sa construction en bois ni de déraciner les arbres autour, alors il m'a choisi. Mais je l'ai eu juste avant que le marché devienne complètement fou. Adrien a déménagé le 1er mars 2021. Il a pris un prêt à taux fixe car ce n'était pas le moment de prendre un taux variable. J'en ai entendu des belles. J'ai évité tout ça de justesse. Et il a trouvé une solution pour rembourser son prêt, mettre sa maison en colocation. C'est sûr qu'au début, c'était difficile. C'est une grande maison, j'ai pas d'enfants, je suis pas mariée. C'est trop grand pour y vivre tout seul. Donc, depuis bientôt un an, je suis en colocation avec une femme que je ne connaissais pas au départ. Mais désormais, on est devenus amis. Et ça fonctionne super bien. Depuis, Adrien revient à Montréal 2 à 3 fois par semaine pour son travail. Le reste du temps, son bureau est chez lui. La pandémie a été une vraie souffrance pour moi, de voir que tout pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Alors aujourd'hui, je n'ai aucun regret. Je me sens bien, j'ai ralenti mon mode de vie. C'est une très belle maison en bois. Et je suis entourée d'arbres, dans un environnement beaucoup plus serein, aéré. J'ai un chien qui m'accompagne. Je suis chanceux. Lucie, un condo dans Rosemont. Il y a ceux et celles qui ont fait le choix de quitter la ville et d'autres qui ont pris la décision inverse. Comme Lucie, par exemple, 61 ans, qui a déménagé à Montréal en juillet 2022 avec son mari. J'étais enseignante à Rimouski et on a décidé de prendre notre retraite à Montréal car mes 3 enfants habitent ici, explique-t-elle. Lucie a acheté un condo dans le secteur de Rosemont en décembre 2021 et a vendu sa maison à Rimouski. Si le départ pour Montréal était prévu depuis plusieurs années, un facteur inconnu s'est rajouté à l'équation. On a attendu de prendre notre retraite pour acheter à Montréal, mais on ne pensait pas qu'il y aurait une plombée des prix. Ce n'était pas prévu dans notre budget. C'était assez astronomique, l'augmentation des cours, la surenchère, raconte Lucie. Les prix du marché ont énormément grimpé entre 2020 et 2022, soit en pleine pandémie. Ça commençait à devenir compliqué de partir quand on a vu que le marché avait beaucoup bougé. Mais c'est certain que nous, on avait quand même financièrement les moyens parce qu'on est à la retraite et qu'on a beaucoup économisé dans notre vie. Ce n'était pas notre première propriété, donc chaque précédent investissement a été un petit levier financier, si on veut. Si ça avait été notre premier achat immobilier, ça aurait été impossible de payer les prix demandés encore plus avec la surenchère. Lucie et son compagnon ont dû se démarquer de la quarantaine de visites qu'il y a eu juste sur une fin de semaine. Il a fallu faire une offre, puis une suroffre. Son emprunt, Lucie l'a pris au taux variable, d'habitude plus avantageux. Mais avec la bulle immobilière de la pandémie, Lucie se demande avec du recul s'il n'aurait pas fallu faire l'inverse. On aurait dû prendre le taux fixe. Mais on avait déjà fait nos recherches et d'habitude, le taux variable s'avère toujours plus avantageux. C'est peut-être le seul regret qu'a Lucie, qui se dit par ailleurs très satisfaite d'avoir acheté ce condo et de ne pas avoir attendu plus de peur que l'investissement devienne impossible. La situation devenait pressante. Et on avait la crainte d'être obligé de louer avec le risque d'être délogé par le propriétaire s'il voulait reprendre l'appartement. Donc, on a conclu que c'était préférable pour nous de prendre un condo maintenant plutôt que d'attendre encore. Véronique, un condo dans Rosemont. Véronique, 42 ans, travaille dans la fonction publique provinciale. Elle a aussi acheté un condo dans Rosemont en mars 2022. Je magasinais déjà depuis plusieurs mois et j'étais découragée par les prix élevés et la surenchère. Je sentais que c'était la dernière chance pour moi de devenir propriétaire, surtout à Montréal. Alors j'ai revu mes priorités et mon budget. J'ai pensé à long terme. Pour Véronique, le plus important était de rester dans son quartier. Elle vivait déjà à Rosemont comme locataire et était attachée à son environnement quotidien où elle pouvait tout faire à proximité. J'ai mis de côté quelques attentes que j'avais, comme celle d'avoir une cuisine moderne ou une salle de bain de rêve. J'ai opté pour un petit condo vieillot, mais en bonne condition. Pas de tape à l'œil. Comme la fiche de l'agent immobilier n'était pas attrayante, je n'ai eu aucune surenchère à faire et j'ai même pu négocier à la baisse. Véronique a choisi le taux variable avec un plafond. J'aurais dû prendre le taux fermé qui serait légèrement plus bas que ce que je paye en ce moment. Aujourd'hui, Véronique ne regrette aucunement cet achat qu'elle voulait faire depuis longtemps. Mais elle n'aurait jamais pu se l'offrir sans le soutien de sa mère. Si j'ai pu acheter ce condo, c'est parce que j'ai hérité d'une somme d'argent. Ma mère est décédée pendant la pandémie. Elle voulait que je m'achète quelque chose à moi à Montréal parce qu'elle savait que c'était mon rêve. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté une maison pendant la pandémie et voici ce que j'ai appris, un texte de Justine Leblond, paru le 22 février 2023 dans Urbania.
Créer la vitalité. Mélanie Gagné nous fait découvrir la vitalité culturelle d'Albertville, un petit village au Bas-Saint-Laurent. Un texte paru dans l'édition Automne-Hiver 2022 dans le magazine Nouveau Projet. Ce village, qui surplombe toute la Matapédia, semble suspendu au-dessus des montagnes. Environ 230 âmes y vivent aujourd'hui, dont Xavier Sénéchal, l'homme orchestre de la scène artistique locale. Il est né à Albertville et, comme la plupart des jeunes, il est parti pour étudier. Un diplôme d'études en architecture et quelques années dans les grands centres plus tard, il est revenu vivre dans son village natal avec sa blonde. C'est là qu'il est devenu Guise, artiste bruitiste, patenteux de pédales d'effet, fondateur du studio sonore Urubu, bénévole à la bibliothèque locale et président du comité de développement d'Albertville. L'implication, c'est dans ses tripes. Il est à la base de la vitalité et de la singularité de la localité, affirme Pascal Saint-Amand, conseiller en développement culturel pour la MRC de la Matapédia. Pour Xavier, le développement peut prendre plusieurs formes. Accueillir un groupe de jazz expérimental qui attire 60 personnes pour moi, c'est du développement. Embellir le village avec un projet de mural pour notre édifice municipal, c'est aussi du développement. La murale en question a été créée par le photographe et artiste montréalais Carlos Oliva à la suite d'un appel d'offres. Avec ses couleurs vives, ses végétaux et ses cours d'eau, l'œuvre fait écho aux richesses naturelles du coin. Le muraliste a tellement aimé son expérience de création à Albertville qu'il a fini par s'y acheter une maison. D'autres artistes ont été accueillis à l'église qui trône au milieu de la place. Comme l'ancien magasin général des Grenons, le lieu a conservé sa vocation, mais la fabrique permet également aux artistes d'y créer et d'y présenter des spectacles. Xavier reçoit maintenant des appels de créateurs-créatrices de Montréal qui veulent venir y faire leur tour, notamment pour faire de l'art performance. Quand on marche sur la rue, il est donc tout naturel d'entendre des bribes de musique s'échapper du bâtiment. Albertville est entourée de forêts, majoritairement composées de conifères. À vol d'oiseau, le lac Matalik, le lac Amadou, le lac Indien et les autres se révéleraient au regard comme des yeux brillants. Le territoire est un immense garde-manger local où l'on peut pêcher, chasser, cueillir des plantes et récolter des champignons sauvages. Le village a également son jardin communautaire et ses arbres fruitiers, ce qui lui a valu le titre de municipalité nourricière en 2018. C'est peut-être l'aspect brut du lieu, son authenticité qui plaît autant. Xavier, lui, n'affirmera jamais qu'il vit dans le plus beau village. Il veut embellir son environnement, bien accueillir les visiteurs-visiteuses, mais il refuse de se lancer dans une entreprise de grande séduction. Dans les années 1960, après 40 ans d'existence, ce village était menacé de fermeture par le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Xavier en a entendu parler par sa grand-mère, mais, insiste-t-il, ce n'est plus un sujet d'actualité. Notre comité de développement discute souvent avec le maire. On ne parle plus de dévitalisation, on parle de vitalité. C'était « Créer la vitalité ». Mélanie Gagné nous fait découvrir la vitalité culturelle d'Albertville, un petit village au Bas-Saint-Laurent. Un texte paru dans l'édition automne-hiver 2022 dans le magazine « Nouveaux projets ».
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Lynn Lamarche et Robert Chartier à la lecture, Nicolas Zartman à la recherche, à la présentation et au montage.